voici comment François Bernheim choisit de présenter Gilles Tiberghien dans un texte qui s'intitule tout simplement « Formidable Gilles Tiberghien ». Je suis parti pour te faire rougir. Il n'est pas un homme tronc. Il n'est pas toujours là où il semble présent. Il ne se méfie pas de ses émotions. Il n'est pas intelligent pour que les autres soient des cons. Il n'a pas forcément bon goût. Il n'aime ni le pouvoir, ni ceux qui l'exercent. Il n'aime pas ne pas se mettre en danger. Il n'est pas a priori une femme. Alors qui est-il? Un champ de blé mûr, ondoyant sous une légère brise au lever du soleil. Un cratère de volcan transitoirement assagi, afin que lui et ses amis puissent y passer la nuit avant d'assister au lever du soleil. Un grand canyon où il chevaucherait aux côtés des Indiens en révolte. Un grec ancien, citoyen d'Europe, d'Amérique et d'autres continents connus ou inconnus. Un homme sachant que ceux qui ne sont jamais ailleurs ont fort peu de chance d'être ici. Un frère, par la pensée de Rabbi Nachman, qui a écrit « Ne demande jamais ton chemin à personne, sinon tu ne pourras jamais t'égaler. » Vous me direz, vous voilà bien avancé. Voici, en guise de complément, une amorce succincte d'état civil. J'emprunte également au même François Bernheim. Il est né en 1953, philosophe et professeur d'esthétique. Gilles Tiberghien enseigne à l'Université de Panthéon de Paris-Sorbonne et de l'Institut d'architecture de Genève. Il est membre du comité de rédaction des cahiers du Musée d'art moderne et des carnets du paysage. Il a dirigé différentes collections, publié différents livres, dont certains se trouvent là sur la table. Et si je puis ajouter quelque chose, Gilles est d'autant plus formidable que nous allons nous entretenir librement aujourd'hui, à bâton rompu comme toujours, de questions d'art, de paysage, de sujets, de personnages et de théâtre, à propos d'un spectacle que nous n'avons pas encore vu, ni lui ni moi, puisqu'il a été créé il y a quelques jours à Lausanne, et qu'il n'arrivera à Paris qu'après-demain. « Il cielo non è un fondale »,« Le ciel n'est pas une toile de fond » de Daria, de Florian et Antonio Tagliarini. Nous savons par oui dire certaines des choses du spectacle, mais nous allons en parler un peu à l'aveugle, et ça n'est pas désagréable, ma foi. Alors, nous savons quand même un peu autour de quoi a porté l'enquête créative de Daria et d'Antonio. Nous savons qu'ils se sont intéressés donc à des questions de paysage urbain, et non pas seulement d'habitat, mais de ce qu'on appelle habiter, et ce qu'on appelle d'habiter ensemble, en communauté. Alors, on commencera peut-être par commenter ce titre, un peu énigmatique. Il cielo non è un fondale, le ciel n'est pas une toile de fond. Mais c'est évidemment ce titre qui nous a fait penser tout de suite à faire appel à Gilles pour en parler, parce que Gilles, professeur d'esthétique et philosophe, spécialiste du paysage, est aussi l'un de ces philosophes qui s'intéresse aux humains qu'il habite et à la façon dont le paysage est peuplé, et en particulier à ce cas très intéressant où les habitants sont des artistes qui se posent à leur façon les mêmes questions que le philosophe. Alors, pour nourrir la conversation, Gilles nous a apporté quelques images que j'espère que nous pourrons voir. Si nous ne pouvons pas, ce sera encore plus à l'aveuglette que je ne pensais. Mais quoi qu'il en soit, nous aurons l'occasion de peut-être emprunter quelques extraits de ses livres, « La nature dans l'art », dans la collection Photopoche, « Amitié », avec un R du verbe « amitié », dont Gilles est l'inventeur, mais qu'il a eu la gentillesse de ne pas déposer comme marque. Note sur la nature, la cabane et quelques autres choses, un titre très très modeste mais qui cache de très très beaux textes. Et puis d'autres surprises que nous aborderons si nous manquons de matière, ce dont je doute, parce que Gilles a apporté lui-même quelques textes pour nourrir la conversation. Luc, je te laisse continuer à essayer de...
Vous occupez pas de moi.
Voilà. Ouais, nous sommes au théâtre, c'est la vie. Alors... Gilles, tu as tout de suite accepté de participer à cette rencontre. De toute façon, nous sommes, si j'ose dire, sur ton terrain. Ça n'est pas vraiment un problème. Mais toi-même, comment comprends-tu ce titre « Il cielo non è un fondale » ? Qu'est-ce que ça te suggère ? Qu'est-ce que ça te déclenche comme rêverie ?
Moi, j'ai pensé à quelque chose, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le spectacle. Je pense, d'abord, je t'avais parlé de cette phrase de Baudelaire. Enfin, ça m'a pas, c'est une sorte de syntagme. Dans un de ses poèmes, il parle du ciel carré des cours, déjà, que trouve une expression magnifique qui nous entraînera peut-être à parler du paysage urbain, je ne sais pas, après. C'est-à-dire, en fait, pas le ciel qui se donne à voir à la limite de l'horizon, là où il est censé toucher la terre, mais un ciel qui est vertical, un ciel zénital. Et alors, j'ai pensé aussi à une, mais ce n'est pas eux, évidemment, je pense à une expérience que j'ai pu faire. Tu parlais des artistes qui m'intéressent particulièrement, mais il y a un artiste qui s'appelle James Turrell. Et James Turrell, il a acheté un volcan dans l'Arizona, qui est en 77, pour y installer une sorte d'observatoire, d'observatoire céleste. Et il a mis beaucoup de temps à l'aménager, il n'est pas encore terminé, mais maintenant il est presque terminé, donc on peut regarder les astres de différents points de vue. Il y a des chambres souterraines, c'est un endroit gigantesque où je suis allé, c'est dans le désert, dans le painted desert, le désert peint. Et c'est une expérience d'ailleurs absolument fascinante que j'ai pu faire là, de la lumière, etc. Mais cette expérience, je l'ai faite aussi ailleurs, dans un environnement artificiel, puisque ce qu'on appelait le confort moderne à l'époque, à Poitiers, enfin ça existe encore, mais c'était un centre d'art, je crois que ça s'est transformé, je ne sais plus trop comment, mais ça existe toujours plus ou moins. Bref, il a fait une installation incroyable, vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas, c'était une piscine. Il y avait une piscine à laquelle on accédait par des marches, on mettait un maillot de bain, parce que c'était un peu 1900, c'était un peu... Pas indispensable, admettons. Et surtout, ce qui était très beau, c'est qu'on plongeait dans cette piscine. Alors, dans la piscine, il n'y avait pas d'éclairage, sauf un éclairage qui venait de l'eau, qui sortait de l'eau. Donc, on arrivait, il y avait cet éclairage qui sortait de l'eau, et on se plongeait dans cette eau, et on tournait autour d'un pilier, un large pilier au centre. On nageait autour. Et puis, on voyait bien que quelque chose existait à l'intérieur du pilier. Donc, à un moment donné, on plongeait. Et on ressortait dans le pilier, et quand on ressortait, il y avait des banquettes tout autour, et là on s'asseyait sur ces banquettes qui étaient à ras de l'eau, et on voyait quoi ? Rien vraiment devant, parce que le fond, comme chez Turrell, était indistinguable. Il n'y avait pas d'évaluation possible de la profondeur, sauf celui qui était en face de nous, assis sur la banquette en vis-à-vis, éventuellement, s'il était là. Mais surtout, à ce moment-là, sans cette profondeur sensible, on n'était pas très conscient de cet espace, on levait la tête et là on voyait un carré. Un carré, c'était le ciel réel. Et le ciel, justement, on avait l'impression, c'est ça qui était très théâtral, que surtout quand il y avait des nuages, quelqu'un déroulait, tu sais, c'est comme dans les théâtres anciens, déroulait une sorte de décor, comme si les nuages étaient tout plats, comme ça, que quelqu'un avec une toile venait passer au-dessus de nous. Et c'était absolument impressionnant et magnifique. On avait surgi à l'intérieur de cet autre univers, on avait fait cette sorte de naissance seconde, et puis on était sous cette toile qui courait et qui artificialisait en fait la nature en face de nous. Donc je ne sais pas si le ciel en question renvoie à cette idée d'artifice de la ville, je ne sais pas, mais enfin ça me suggère ça.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le travail de Florian et Tagliarini, il y a toujours un rapport réflexif à la fiction, au travail sur la fiction. Le travail actuel, par exemple, qui est présenté à Berthier actuellement, qui s'appelle « Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni », nous en allons pour ne pas vous donner d'autres soucis, d'autres préoccupations, a été construit, vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle, qui est très beau, très simple, apparemment, comme dispositif, a été construit à partir de leur effort pour rendre compte théâtralement, pour réagir théâtralement avec leurs armes d'artistes de théâtre et de performeurs à un fait divers, quatre vieilles dames qui se sont suicidées en Grèce, à Athènes, parce que leur retraite, leur pension de retraite avait été divisée par deux, parce qu'elles n'avaient plus de quoi se payer leurs médicaments, et parce qu'elles se sentaient par trop à charge à la société. Donc ces quatre vieilles dames, amies sans doute, décident de se supprimer ensemble, écrivent une petite lettre pour expliquer leur geste, posent leurs quatre pièces d'identité sur la table de la cuisine et prennent des médicaments avec de la vodka pour accélérer le processus. Comment réagit-on artistiquement de façon juste, digne, à bonne hauteur devant un fait pareil? C'est la question que De Florian et Tagliarini ont tenté de poser dans le spectacle qui se donne actuellement à Berthier, jusqu'à demain, je crois. C'est poignant, c'est saisissant, c'est même un peu effrayant quand on expose des choses comme ça. Mais il y a une chose que beaucoup de gens oublient très vite en cours de spectacle, alors que ça n'est pas caché, ça n'a jamais été caché, ça n'est pas un piège que les artistes tendent. Et même certains journalistes l'ont oublié, l'ont perdu de vue, enfin, que là encore, les cartes sont sur la table, c'est que ce fait divers dont je viens de vous parler n'en est pas un, en fait. Ce n'est pas un fait divers réel, c'est une page extraite d'un roman policier grec. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un fait divers fictif, un fait divers tout à fait fictif, mais d'une ficticité qui n'empêche pas sa facticité, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce fait divers, dans un roman de Petros Barkaris, est saisissant de réalité. Si vous voulez. Il a beau être le fruit de l'imagination romanesque de Barkaris, il sonne juste, il sonne vrai. Et c'est bien pour cela que la confusion se fait dans l'esprit des spectateurs. Elle se fait dans l'esprit des spectateurs parce que De Florian et Tagliarini réagissent devant ce fait divers fictif comme s'il s'agissait d'un fait divers réel et traitent leur réaction de théâtre devant ce fait divers fictif comme si leur réaction de théâtre était également des réactions réelles et jouées en direct et improvisées devant vous, alors qu'elles ne sont évidemment pas du tout improvisées. La chose se complique du fait que, bien entendu, ce fait divers fictif s'inspire de faits divers réels et que, bien entendu, très souvent, la réalité finit par copier la fiction, ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ce genre de suicide par désespoir économique s'est produit en Italie alors qu'ils avaient déjà commencé à engager le travail sur le spectacle. Alors, pourquoi ce long préambule ? Parce que le ciel n'est pas une toile de fond. C'est sans doute bien une façon de rappeler qu'effectivement, il y a du réel, il y a quelque chose qu'on appelle du réel, il y a quelque chose avec quoi on ne transige pas, quelque chose qui est hors-jeu, si j'ose dire, hein, qui n'est pas de, avec quoi on ne peut pas jouer, même si on ne peut pas le toucher du doigt, jamais personne n'a touché le ciel du doigt. Et pourtant, le lieu qu'ils choisissent pour exposer ce rapport au réel, ça reste le théâtre. Et ce qui complique encore la chose, c'est que ce théâtre-là, dans ce spectacle-là, d'après ce que nous avons pu en comprendre, et d'après ce que nous avons pu dire, ce spectacle-là choisit en effet d'aborder cette réalité d'un ciel qui nous est commun, qui nous couvre tous, sans être ni un artifice, ni un abri. Ils ont choisi de l'aborder à partir effectivement de notre rapport au paysage urbain. Tu parlais de le ciel découpé dans la cour, tu cites Baudelaire, évidemment Baudelaire est le premier grand poète de la conscience urbaine moderne, du paysage moderne, et d'ailleurs l'un des ouvrages que j'avais apporté, de 2,80€ petit prix, voyez où on en est. Époque, c'est les fleurs du mal. Je ne vais peut-être pas vous citer ici le signe des petites vieilles, mais je le pourrais. Je crois que là, on est tout à fait dans le cœur du sujet.
Et ce que tu dis, ça permet aussi de revenir à la notion même de paysage, parce que c'est exactement en fait ce qui est en jeu dans le paysage. C'est-à-dire pas simplement, comme on le croit trop souvent, et si on s'en tient à la définition traditionnelle du paysage, un espace saisi d'un point de vue dans un cadre et limité par un horizon, ce qui est en gros les trois éléments du paysage traditionnel, la représentation du paysage que donne bien d'ailleurs le mot anglais scenery, donc un théâtre, une scène, mais c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire c'est une communauté d'individus, c'est-à-dire c'est d'abord une communauté de terre, ce qu'il y a dans Landschaft en allemand, c'est-à-dire Schaffen indiquant cette idée de réunion, d'ensemble. C'est d'ailleurs une notion qui est plutôt juridique au départ qu'esthétique ou artistique. Dans Scape aussi, Scape ça renvoie pas à Scope, hein. Scape c'est aussi une racine qui désigne cet ensemble. Et du coup, en fait, dans le paysage, il y a cette idée forcément de communauté qu'un géographe, par exemple, contemporain, Augustin Berque, essaie de traduire à travers des termes qu'il emprunte à la philosophie japonaise, par exemple, ou à d'autres... discipline ou d'autres traditions, et qu'il appelle par exemple médiance. Enfin, c'est tout un vocabulaire, mais ou trajection, par exemple. Pour dire qu'en fait, le paysage, c'est d'abord une relation. Le paysage, c'est pas simplement quelque chose qu'on regarde face auquel on est, mais c'est quelque chose qui en fait décrit une relation entre un individu et fait même de cette relation. Et du coup, ce que tu évoques, c'est, tu parlais de cette coupe, de ce ciel qui englobe. C'est du paysage, c'est du paysage. Alors, c'est du paysage vu hors horizon, c'est du paysage peut-être dans les cours dont on parle, mais pour qu'il y ait une cour, il faut qu'il y ait des faces, des façades d'immeubles, et dans ces immeubles, il y a des gens. Donc il y a cet ensemble qui est dessiné, dans le paysage urbain par exemple.
D'ailleurs, le paysage, le ciel carré que tu décrivais dans cette expérience d'immersion et de renaissance, n'était pas un ciel carré qu'on percevait seul.
Non.
C'était tu parlais de ce sentiment d'effacement de la limite de l'horizon ou de l'échelle dimensionnelle qui n'était rétablie que par la présence d'autres sujets, d'autres personnes présentes avec toi en même temps à l'intérieur de ce cylindre creux.
Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait on est un peu obnubilé par l'idée du paysage classique en perspective, quoi. Le paysage tel qu'on voit à la Renaissance, tel qu'il apparaît à la Renaissance, et qui en effet est assez contemporain, je ne dis pas totalement contemporain, parce qu'on peut discuter là-dessus, mais disons contemporain globalement, non pas l'invention de la perspective, mais disons sa mise au point à travers le point de vue monofocal, bon, bref, globalement c'est ça, quoi. Mais en fait, ça c'est une simple, c'est une forme du paysage, c'est une idée du paysage. C'est ce que Jackson, par exemple, ce théoricien du paysage américain dont je reparlerai, décrit comme le paysage politique. Un paysage, c'est les grandes vues, hein, les grandes vues d'ensemble qu'on voit. Mais à côté de ce paysage-là, il y a d'autres types de paysages. Il y a le paysage de l'usage, par exemple, ce qu'il appelle le paysage vernaculaire. Le paysage de tous les jours, le paysage des traces qu'on laisse en marchant, le paysage des usages quotidiens, qui est un paysage qui coexiste avec l'autre, mais qui est très différent, qui est à l'écart de ces grands axes politiques où on fait passer... le ravitaillement, les armées, les biens, etc. Là, dans ces creux, dans le bocage, par exemple, le paysage vernaculaire par excellence, il y a des usages qui ne sont pas sous surveillance, qui font et défont très rapidement. Le paysage qui a une vitesse, du coup, une temporalité différente de l'autre. Je voulais raconter ça, ce que tu disais, je viens de m'égarer.
Non, mais j'étais en train de rêver tout en t'écoutant. Je pensais au mot pays, au mot pays simplement, à son étymologie qui est déjà intéressante. Tu parles du bocage et tu parles des activités qui sont en quelque sorte sous un certain seuil de perception politique qui échappe au radar politique, du micro local, du minuscule. Ce qu'on a appelé les païens. N'est-ce pas, les pagani, c'était ceux qui habitaient le pagus, c'est-à-dire qui habitaient en dehors des centres urbains, qui habitaient dans ces bocages, et où effectivement, en dessous de la ligne de visibilité politique, on pouvait continuer à pratiquer des choses officieuses qui devaient surtout échapper à toute reconnaissance publique.
Oui, c'est ça, et d'ailleurs, le mot vernaculaire est intéressant parce qu'il vient... du mot verna, dire l'esclave attaché à la maison. Donc c'est vraiment lié à des choses très locales en fait. Puis ça peut changer très vite en fait. Du coup, il y a un chemin qu'on a emprunté, puis pour une raison ou pour une autre, on l'emprunte plus, donc il est abandonné progressivement, il s'efface. Puis un autre, comme un peu, moi j'aime beaucoup c'est Emmanuel Occart qui était très intéressé par ça, mais Wittgenstein, il marchait à Trinity College toujours sur de la même façon. Il faisait toujours une marche où il laissait sa trace, un peu comme fait Richard Long, mais là, lui, pas de façon artistique, il le faisait parce que c'était une sorte de motif personnel, de rêverie, et comme on fait des dessins toujours les mêmes, lui, sur la pelouse, il faisait des, je ne sais quelle figure. Et en fait, quand il a disparu, le jardinier a conservé cette marche. Donc il tond la pelouse. Enfin, j'espère qu'il le fait encore aujourd'hui, mais enfin, j'ai vu la photo. Il tond la pelouse en suivant le chemin de Wittgenstein. Et je trouve ça très beau, comme, parce que c'est presque rien, quoi. C'est un usage qui est perpétré, la mémoire d'un homme, et qui s'inscrit dans ce paysage intérieur de l'université, et qui garde une forme quasi invisible, mais de la présence de Wittgenstein.
Ce qui est joli dans cette histoire de sentier de Wittgenstein, c'est que pour le coup, effectivement, à tout moment, cette trace-là pourrait disparaître.
Ouais.
À tout moment, le jardinier pourrait choisir de ne pas de suspendre son geste de reconduction de la trace en l'absence de celui qui l'a tracé. Et ça, la trace serait à nouveau noyée dans un paysage indifférent. Alors que ce que tu appelles le paysage politique, par contre, durcirait les lignes, les fixerait, les monumentaliserait ou imprimerait clairement la présence d'une autorité ou d'un État. J'ai beaucoup aimé cette citation que tu fais de Hawthorne dans Les Notes de la Nature. Ça se trouve page 20. Jeune homme, Hawthorne écrivit un essai nostalgique sur la disparition des sentiers indiens aux États-Unis, donc sur la côte est. Je cite, « Le chemin forestier, piétiné par les chaussures à clous de ces robustes Anglais, a maintenant une netteté que n'aurait pas même pu lui donner le pas léger des mocassins indiens, 100 fois plus nombreux. »
Oui, c'est d'ailleurs c'est tout ce qui différencie d'ailleurs le chemin de la route. Hein, parce que la route, c'est plutôt... c'est du côté de la... appelle via rupta, c'est-à-dire que c'est ce qui a rompu le paysage, qui l'a traversé durement, ce qui l'a violenté. C'est du côté des mots comme qui commencent comme Strasse, Street. Tous ces mots, en fait, indiquent la surface dure, l'asphalte. Alors que le chemin, donc en fait, une réalité objective. Tandis que le chemin, il est du côté, inversement, de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire du tracement. Si on peut dire du traçage plutôt que de la trace de cette activité, et du coup de la manière aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot way en anglais, parce qu'il dit à la fois le chemin, mais la façon de marcher, l'allure. Quoi. Et ces deux réalités, en fait, elles se conjuguent bien sûr, mais elles distinguent très nettement d'un côté probablement beaucoup plus le paysage politique que tu viens d'écouter avec les routes, les rues, les grands axes. Et de l'autre, ces paysages vernaculaires qui sont plutôt en effet du côté du chemin, du sentier, ce genre de choses.
Ça implique évidemment des rapports à la communauté, des rapports à l'histoire très très différents. La via rupta, qui est la via latine, comme son nom l'indique, tu le rappelles à l'instant, rupta, la voie rompue. Ce qui est rompu, effectivement, tu le dis, c'est le paysage lui-même, dont on casse les cailloux, dont on brise les obstacles pour pouvoir tracer la route, comme une sorte de trait de couteau qui coupe à travers les ondulations, le volume propre du paysage. Le chemin, par contre, effectivement, il est de l'ordre de l'usure patiemment recommencée de la marche. Quant à la Strasse allemande, la Street anglaise, c'est encore de l'italien, c'est encore du latin. Du latin, c'est le verbe n'est plus rompere, rompre, c'est sternere, sterno, qui a au supin fait stratum. Et donc c'est l'idée effectivement d'horizontalité renversée. On a renversé devant soi les obstacles, soit plus probablement on a appliquer des plaques pour imposer une horizontalité à un sol. Autrement dit, une géométrie autoritaire s'impose au paysage plutôt que d'épouser, comme on dit, les contours de son corps. Et là, oui, pardon, vas-y.
Je regarde. D'abord, vous notez que, enfin, vous ne savez pas, mais cet homme est extrêmement féru en latin, en grec, en allemand, en italien, en espagnol. Il traduit incroyablement, du grec. Pardon. Il ne se présente pas, mais c'est extrêmement modeste. Mais c'est un science, donc rien de ce qui
Le formidable Gilles Kipperbier.
Enfin, je tiens à le signaler parce que vous avez des textes de lui, vous trouvez en GF ou d'autres, qui sont traduits du grec, qui lit comme ça. Alors, non, ça me fait penser ce que tu dis alors, je ne peux pas le montrer, c'est dommage, parce que j'avais amené ça à un artiste que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute, qui est Richard Long. Alors, Richard Long, il fait des marges dans le paysage, il en produit beaucoup. À travers le monde entier, hein, depuis 45 ans, presque 40, oui, 45 ans, non plus, encore, il a commencé à 65, donc 50 ans. Et donc il ne cesse de marcher, de lever des pierres, de les disposer en cercle, enfin c'est magnifique comme travail, il les photographie, puis il les replace et il s'en va, il les laisse. Et il fait d'autres choses aussi, il dessine des choses qui sont les lignes de vent, par exemple. Et il fait des cartes, il dessine des cartes. Enfin, elles sont très complexes, toutes, chacune est très intéressante à regarder parce que c'est jamais les mêmes systèmes, les mêmes procédés. Alors celui auquel je pensais, ou celle, pardon, à laquelle je pensais, la carte à laquelle je pensais, c'est une carte en fait où il fait une marche circulaire. Alors, vous avez la carte et puis vous avez la marche géométrique, on se promène sur le cercle et puis d'un coup, dès qu'il rencontre un fleuve ou de l'eau, tout d'un coup, le cercle commence à épouser le bord du fleuve. Hop, il revient au cercle géométrique, ça continue. Et puis là, il y a un petit lac, il épouse le bord du lac, etc. Donc en fait, ce qui est très beau là-dedans, c'est que dès qu'il y a de l'eau, la géographie affleure sous la géométrie. Vous avez le territoire sous la carte, qui vous fait comprendre en fait comment la distance entre la carte et le territoire n'est pas si grande d'un certain point de vue. En tout cas, il la ramène à très très près en évoquant son expérience propre de marcheur. Parce qu'évidemment, on ne peut pas marcher avec lui. Donc il nous restitue une sorte d'équivalence de la marche à travers cette démarche, on peut dire, et ce simple dessin au trait sur la carte.
Comment fait-on d'ailleurs pour appréhender des œuvres pareilles autrement que par la trace de ces œuvres, je veux dire, notamment photographiques? En parenthèse, vous pouvez trouver des reproductions, enfin des documents photographiques plutôt relatifs aux œuvres de Richard Long dans ce livre. Je peux d'ailleurs, autant le faire circuler, je vous ai mis ainsi à l'autre page. Tu parlais de ces traces, de ces chemins frayés. Vous avez ça ici. Et tu parlais de ces pierres levées et replacées. Donc là, on a un travail dans l'Himalaya qui s'appelle d'ailleurs A Line in the Himalayas. Si vous voulez consulter ce livre. Je sais qu'il reviendra, j'ai confiance.
Alors, regardez la couverture. Voilà, oui. Je l'ai choisi parce que c'est une œuvre que j'adore et que je trouve magnifique.
Son titre est formidable.
Voilà, c'est de Hamish Fulton. C'est An object cannot compete with an experience. Un objet ne peut pas rivaliser avec une expérience. Et tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour appréhender ces œuvres. Mais justement, on ne peut pas refaire l'expérience de ces marches puisqu'elles sont par définition uniques, solitaires. Et les artistes nous en donnent une sorte d'équivalent sensible à travers les photographies, à travers les pierres levées qu'ils peuvent éventuellement installer dans des musées ou dans des galeries, avec des protocoles d'ailleurs assez singuliers, puisque ce que dit Long quand on lui achète une œuvre, c'est diamètre 5 mètres. Et puis éventuellement, commencer par les bords, les plus grosses pierres jusqu'au centre. Vous savez, ces cercles de pierres, mais c'est tout. Après, c'est au conservateur, à celui qui expose, de les installer. Mais ce sont en fait des sortes d'équivalents visuels de quelque chose qu'ils ont fait et qui nous est donné à voir d'une certaine façon à travers ces matériaux, à travers ces photographies, etc. Mais c'est la seule façon. Alors, Fulton, il dit, lui, il ne touche à rien d'ailleurs. À la différence de Long, il ne touche à rien, il fait des photographies, il met des textes. Mais il dit, alors, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un moine. Je suis un artiste, donc il faut bien que quelque chose subsiste de ce que j'ai fait. Mais je ne suis ni peintre, ni photographe, ni sculpteur, ni paysagiste. Je suis tout cela à la fois. Et il reste des œuvres de ce genre, c'est-à-dire avec des lettrages, qui indiquent un moment, un lieu, et quelque chose d'extrêmement ténu, quoi, quelque chose comme une atmosphère, peut-être, une pensée qui subsiste à travers ce qu'ils nous ont restitué.
Finalement, le terme de trajection que tu utilisais est un terme qui convient assez bien à la fois à la production et à la perception de ces œuvres. Effectivement, elles sont faites pour être traversées.
Oui. Mais quand on est, par exemple, si vous allez à Bordeaux, sur le toit du CAPC, il y a une ligne de Richard Lang. Donc vous pouvez marcher le long de la ligne, vous pouvez la parcourir. Et du coup, en fait, vous éprouvez d'une certaine façon un peu ce qu'il a pu éprouver lui. Bien sûr, ça n'est jamais qu'un équivalent, la restitution de quelque chose qui est sans commune mesure à certains égards, mais qui tout de même donne une idée. C'est un peu aussi ce que... C'est l'idée de Bergson que entre le temps et l'espace, hein, que le temps, c'est l'espace, c'est du temps gelé un peu. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans le... c'est de la durée gelée, quoi, mais dans le... Dans le travail de Long, on a un peu, moi je trouve un peu ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, il nous donne une expérience solidifiée, quoi. Alors que cette expérience, elle est fluide, elle est le moment, enfin, elle est un ensemble d'éléments qualitatifs irreproductibles. On a juste, une équivalence, oui, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Quoi. Mais c'est ça qu'on a en fait, c'est ça qu'on a. Et pourtant, il nous invite à. C'est une invitation à la marche, c'est une invitation à faire autre chose.
Ce qui me frappe quand même dans les exemples que tu cites jusqu'ici, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne, c'est que l'expérience en question est très silencieuse. Elle est très très silencieuse. La marche de l'artiste se fait seule, la marche à laquelle il invite le. J'allais dire spectateur, mais le terme ne convient pas, de celui qui va à son tour faire l'expérience de cette expérience. Là aussi, ça se fait en silence. Pourtant, le paysage peut aussi être tissé de ces lignes comme un texte. Je pense à... Tu cites d'ailleurs dans la préface de l'ouvrage qui circule, tu cites Chatwin... Et son très joli livre qui s'appelle comment Le Champ des Pistes. Le Champ des Pistes en français, The Sound Lines, qui est un récit à peine fictionné d'un voyage que Chatwin a fait en Australie à la découverte de ces fameuses lignes de chant des aborigènes, où là pour le coup le passage et le refrayage génération après génération depuis le temps immémorial du grand rêve s'accompagne de la réimprégnation et de la recharge d'un texte, d'un savoir verbal, d'une série d'histoires.
Oui, ce qui est très bien.
Je parle de tout ça parce qu'évidemment, je tente de nous ramener du côté du théâtre parce que je suis convaincu que le théâtre, précisément, est un de ces espaces l'expérience de la spatialité devient inséparable d'une certaine recharge d'un certain réinvestissement, d'une réénergétisation du verbal, comme ça.
Oui, alors, ça peut m'inspirer plusieurs choses. Je reviens au théâtre. Alors, la première chose, c'est que par rapport aux lignes, song lines, ce qui est très beau dans ces champs des pistes, c'est que ces lignes, en fait, elles sont la propriété, elles décrivent la propriété de ceux qui savent chanter ces lignes. Quand le chant s'arrête, c'est la fin de l'endroit que possède celui qui le chante. Puis un autre va reprendre le chant et possède.
Mais qu'est-ce qu'on appelle posséder alors ?
Voilà, qu'est-ce qu'on appelle posséder ? Alors, c'est plutôt une sorte d'identification tribale, ou c'est pas exactement une possession d'ailleurs, parce que celui qui chante mourant, et personne ne connaissant la suite ou son propre chant, il redevient un espace vacant, qui est rendu en quelque sorte au mythe, puisque en fait, comme tu l'as dit, le temps du rêve, c'est l'époque où les grands ancêtres habitaient sur Terre, et c'est eux qui sont responsables du paysage. Donc ce paysage rappelle des moments en fait où il y a une vallée, c'est la trace d'un pied, c'est enfin bon, le schématisme, enfin, c'est ce genre de choses. Quoi. Et du coup, si quelque chose est perdu, le paysage revient au temps du mythe, au temps du rêve. Quoi. Donc posséder, non, c'est pas le bon mot, quoi, mais c'est disons en tout cas ce qui permet de dire que ce territoire sacré, c'est le périmètre de ce territoire sacré qui s'arrête. Et la deuxième chose, c'est le paysage comme théâtre, parce que c'est une métaphore en fait qui, comme tu le sais bien, au 17e est très prégnante. Le paysage est un théâtre. Quoi. Et on n'arrête pas de le proposer comme métaphore pour penser le théâtre. Et on le propose comme métaphore pour penser le théâtre, pour penser le, oui, le paysage, pardon, le théâtre comme métaphore pour penser le paysage, comme quelque chose qui nous est en vis-à-vis, quoi, qui est face à nous, comme une scène en face de laquelle on se trouve, si loin. Mais de la façon que le théâtre s'est modifié ou a changé, quoi qu'il cite exactement dans ce type de scène, on peut dire que le paysage, on n'est plus dans ce même rapport avec lui, et qu'on peut considérer que s'il est un théâtre, alors c'est un théâtre avec des scènes dans tous les coins. C'est un théâtre à l'Artaud, quoi. C'est un théâtre où on est entouré, où on est immergé, et que si on peut poursuivre cette image du théâtre, ça n'est plus du tout la boîte noire, classique, traditionnelle, dans laquelle on est ici, par exemple. Et du coup, c'est aussi une autre des dimensions du paysage que d'être une expérience d'intersubjectivité, une expérience où on se parle, où il y a des échos, il y a des bruits, il y a des résonances, il y a des discours, et il y a des récits. Le paysage est plein de récits, c'est une réserve de récits. Il me semble que le théâtre aujourd'hui ne fait que saisir ces récits, les prélever en quelque sorte dans le monde, dans ce que Marco Polo appellerait le devisement du monde, pour les installer sur une scène et faire qu'ils se racontent à nouveau sous une autre lumière, à travers d'autres bouches, d'autres corps, comme si en fait on ne faisait, moi c'est un peu ma vision comme ça du théâtre, que si on faisait que, et du voyageur en général, je pense que le théâtre est une forme de voyage, que faire transiter à travers nous les récits du monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou si tu te sens débile ou...
Ça me paraît très très intéressant, j'étais toujours en train de rêver à cette sagesse australienne du paysage, effectivement, comme tout entier réserve de mémoire, et réserve de mémoire immédiatement déployée, immédiatement visible. Ça, c'est tout à fait fascinant. Le paysage que nous considérons comme naturel, là où nous voyons un fleuve, un rocher et une vallée, le paysage que nous considérons comme naturel, il est de part en part récit. Il est de part en part récit et récit déployé dans et pour celui qui peut le parcourir, le chanter et qui en est partie intégrante, qui en est en quelque sorte responsable d'une certaine façon, une sorte de responsabilité du porteur de récit. Oui. Et porter un récit, c'est aussi bien parcourir le paysage, c'est inséparable. C'est un rapport à la monumentalité qui est très 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 différent d'une autre, très très différent. Mais monument, il y a, là encore, pour faire un peu d'étymologie, le monument, le monumentum, c'est à la fois ce qui à la fois remet en mémoire et fixe un point du temps passé, et qui en même temps avertit, rappelle de ne pas oublier, invite à se souvenir et à s'imprégner de la leçon, pour pouvoir la remémorer et la transmettre à son tour le moment venu. Dans la Grèce archaïque, les paysages étaient souvent ponctués de statues funéraires, souvent, où à la base de la statue se trouvait un vers ou deux qui était fait pour capter le regard du passant et s'imprimer dans sa mémoire, pour que le passant puisse ensuite les réciter et restituer la pensée de l'être enterré là. À mon tour, je me suis un peu perdu, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine conception de la ville occidentale qui se serait comme formée par agglutination autour de tels monuments ? Quand tu parlais tout à l'heure des routes retracées, mais toujours prête à s'effacer jusqu'à ce qu'un pouvoir vienne les durcir et en faire de véritables, j'aurais pas dû dire route, je veux dire chemin. Le moment où le chemin durcit en route, pour ainsi dire, j'ai pensé au quartier où nous sommes, tout simplement. Le forum romain se trouvait à deux pas. Vous savez que les villes romaines étaient fondées selon des axes cosmiques, avec un axe nord plutôt nord-sud, un axe plutôt est-ouest, le Cardo et le Decumanus. Et là, à deux pas, la rue Saint-Jacques coïncide encore aujourd'hui avec l'un de ces axes. Et la rue Soufflot, en gros, avec l'autre, si vous voulez. Et c'était il y a plus de plus de 20 siècles. C'était il y a plus de 20 siècles et ces tracés sont, sont toujours là. Mais pourquoi sont-ils toujours là? Parce que peu à peu, à proximité de ces tracés, sont venus se dresser des monuments qui ont commencé à durcir l'espace urbain, en quelque sorte, faire de la ville le décor durable, le paysage durable de pierre qu'elle est, même si Baudelaire, pour sa part, dit qu'une ville change plus vite
que le cœur d'un mortel.
Que le cœur d'un mortel.
Mais oui, absolument. Et c'est, alors, c'est intéressant parce que cette notion de monument qui est liée à l'installation des villes suivant cette grille que tu décris, le cardo decumanus, qui est traditionnel en Europe, enfin, qu'on trouve dans la vallée du Pô, qu'on trouve, enfin, la présence romaine, c'est très forte. On la trouve aussi dans les empires, dans l'empire Inca, par exemple, dans ces grands empires où, qui marchaient aussi par quadrillage. On le trouve aussi, par exemple, aux États-Unis, c'est une grille, en fait. C'est une grille différente, mais c'est une grille utopique, quoi. C'est une grille qui est installée par Jefferson dès la fin du XVIIIe et qui prend tout le territoire américain de façon abstraite, puisque en fait, avant même que l'Amérique soit conquise, si on peut dire, jusque sur la côte ouest, avant même cela, la grille est installée. Et après, on redivise en townships qui sont, je sais pas, 260 hectares, à chaque fois, enfin, des petits blocs comme ça où les gens s'installent, possèdent des terres. Mais là, les monuments, en fait, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les monuments, ce sont des monuments naturels, beaucoup. On a monuments de vallée, enfin, on a des monuments. Ils appellent monuments des réalités géologiques qui les fascinent, qui leur rappellent, en effet, des monuments de villes européennes et qu'ils appellent ainsi, qui marquent non pas, du coup, la mémoire d'une communauté humaine, mais comme la mémoire. Alors peut-être si quand même un peu par rapport aux Indiens qui y ont vécu, quoique cette mémoire-là, il fallait que les Indiens la fassent valoir beaucoup, mais quelque chose comme la formation du paysage lui-même. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'un théoricien comme Jackson du paysage américain, il dit que en fait les monuments aux États-Unis sont peut-être plus, c'est peut-être plus des monuments invisibles d'une certaine manière. Les routes, ce sont généralement, elles sont faites pour faire communiquer deux espaces, deux lieux, deux villes. Or, aux États-Unis, souvent, les routes sont pas simplement pour mettre en rapport des lieux, elles sont elles-mêmes des lieux, dit-il. Ce sont des lieux où viennent vivre les gens, et où viennent s'agglomérer des gens sur les bords, comme ça, ils s'installent, et ils créent une sorte de communauté du bord de la route. D'ailleurs, les films américains sur Mad Max et autres genres.
Road movies, oui.
Ouais, les road movies, etc., sont vraiment typiquement cette réalité-là. Enfin, c'est issu, en tout cas, de cette réalité-là. Et finalement, le sens du lieu, le fameux genus locus latin, enfin, qui était attaché surtout aux divinités qui protégeaient les lieux plus qu'aux lieux eux-mêmes, enfin, qui sont devenus désormais des lieux. Enfin, les gens pensent qu'il y a des charges intérieures aux lieux, comme inspirées par S ou autre chose de ce genre. C'est plus la divinité, c'est le lieu lui-même. Mais là, aux États-Unis, dit-il, c'est plutôt, en fait, la mémoire d'un événement qui fait que le lieu a tout d'un coup une sorte de spiritualité, si on peut dire. C'est la communauté des gens qui viennent de façon rituelle au même endroit, peut-être pour un foirail, peut-être pour un rodéo, peut-être pour je ne sais quelle vente, régulièrement tous les ans par exemple, qui fait que ce sens du lieu se développe lié ou articulé ou conjugué à un sens du temps. Donc, le sens du lieu ne se peut pas se comprendre sans ce sens du temps, sans cette récurrence d'événements qui lui donne cette réalité.
Mais tu vois, là aussi, on revient au théâtre.
Ouais.
La récurrence d'une communauté, la récurrence d'une communauté en un même lieu, la récurrence rituelle d'une communauté en un même lieu. Ouais. Là, on est au bord d'une définition du théâtre, ouais, d'une certaine façon. Mais la grande différence du Nouveau Monde, comme on l'appelle, avec l'Ancien, est-ce qu'elle ne tient pas aussi justement à cette espèce de rapport, je ne sais pas si vous dire fantasmé ou mythique, avec le grand espace ouvert d'avant l'histoire, où l'histoire va pouvoir, une histoire absolument neuve, va pouvoir s'inaugurer et s'écrire absolument à neuf, sans passé. Raison pour laquelle, effectivement, dans le fantasme du western comme mythe, en tout cas dans cette première version, il faut absolument éliminer l'Indien. Il ne faut surtout pas que la virginité de ce paysage de cette nouvelle histoire possible soit inquiété par une présence humaine antérieure et par une histoire d'avant l'histoire qui mettrait tout par terre. Et est-ce que ce goût de tant d'Américains pour habiter la route et pour le mouvement et pour le déplacement n'est pas lié justement à ce rapport qu'ils ont toujours à l'immensité de l'espace, au fait que l'espace est immense, c'est-à-dire sans limite, sans mesure et sans horizon.
Oui, parce qu'il y a une tradition effectivement de l'installation des pionniers qui continue, qui perdure d'une manière ou d'une autre. Quand on a conquis le territoire américain, qui n'était pas vierge, que je rappelle justement, qui était un territoire où on a pris lequel génocide au fond, hein, comment on peut dire ça, on l'a fait, mais on l'oublie souvent. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant de Howard Zinn qui s'appelle Histoire populaire des États-Unis, qui est très intéressant sur le statut des Indiens, des Noirs, des communautés noires, etc., qui raconte l'histoire un peu autrement quand même, ça. Non pas du côté des vainqueurs, mais du côté des vaincus. C'est un livre magnifique là-dessus. L'installation, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on s'installait dans des maisons qui étaient faites pour ne pas durer. D'abord, les routes, il n'y en avait pratiquement pas. On traversait les prairies comme ça, parce que ça n'intéressait personne de faire une route, puisqu'on allait continuer à se déplacer 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, pour aller encore plus à l'ouest. Donc, la route, le chemin à la limite, mais le chemin s'effaçait, la route, on n'en faisait pas. Et ensuite, on installait différentes sortes d'habitats, par exemple les box houses, des espèces de petites cahutes, comme des boîtes quoi, dans lesquelles on se mettait, mais qu'on détruisait très rapidement. Ou le balloon frame qu'ils inventent, qu'on voit dans les films, vous savez, genre Buster Keaton, tout, c'est monté très rapidement en kit comme ça, c'est comme un jeu de Lego, et hop, on le monte, et puis on le démonte, on le casse, et on continue. Quoi. Et ils ont un mot qui est dwelling, to dwell, c'est en fait passer, en fait, c'est pas vraiment habiter au sens de demeurer. On pourrait opposer, par exemple, l'habitat au sens de s'installer provisoirement, qui est caractéristique de l'habitat américain, de la demeure, qui, elle, caractérise davantage la manière, nous, Européens, d'habiter, c'est-à-dire la demeure avec son grenier, sa cave, avec ses histoires de famille, la demeure qui caractérise aussi la maison au sens traditionnel, puisqu'on parle de la maison des Bourbons, la maison royale, ça, c'est des maisons qui ont
un enracinement.
Un enracinement, voilà, c'est ça, le root, c'est un enracinement. Et donc, c'est deux manières d'habiter complètement différentes, et les Américains, ils ont cette façon précaire, en fait, qui perdure dans leur imaginaire, en tout cas, de, sans compter que les habitats sont en bois souvent, et beaucoup plus qu'en pierre, à cause de l'abondance du bois, et qui fait qu'en fait, on est dans deux optiques très différentes de l'habitat.
En t'écoutant, effectivement, je me fais la réflexion que maison, hein, demeure, résider, résidence, sont autant de termes qui disent à quel point pour nous, le fait d'habiter est associé spontanément dans la langue à une fixation, oui. À une fixation au lieu. On est attaché au lieu, on est attaché à son paysage, son paysage de résidence. Résider, c'est être assis. La mansio, c'est l'endroit où on manette, où on reste. Manere, c'est rester, demeurer. Le mot de demeure le dit, effectivement. Alors que to dwell, c'est quelque chose, c'est un rapport beaucoup plus léger.
Oui.
Un oiseau peut dwell sur une branche.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est tout à fait différent. Mais ce que disent Daria de Florian et Talia Lini à leur façon dans le spectacle, j'en ai quand même lu des passages, c'est que cette précarité qui n'est pas dans notre tradition, cette espèce de retour forcé à un nomadisme, est bien un des phénomènes inquiétants de l'époque, de même que le fait d'habiter la rue sans l'avoir choisi, ça devient de plus en plus. C'est comme si il y avait une sorte de d'américanisation infernale de notre rapport à l'espace urbain qui était en train de se produire. Dans le spectacle actuel Ce ne andiamo, l'une des interprètes, Antonio, raconte l'histoire d'une de ses amies qui, faute de pouvoir payer son loyer, part dans les faubourgs et puis qui, au bout de quelques mois, découvre qu'elle n'est pas non plus capable de payer son loyer dans les faubourgs non plus. et qui se demande donc dans quelle ténèbre extérieure elle va être rejetée. Et Antoine lui dit, bah, j'essaie de la rassurer, de la consoler. Tu pourras toujours habiter chez des amis. Tu trouveras toujours une chambre à habiter chez quelqu'un. Et, d'abord, l'ami n'en est pas très très sûr. Et est-ce que c'est encore avoir une demeure que de devoir comme ça voler d'ami en ami sans plus avoir de, comme on dit, de port d'attache, oui. Hein, ou de foyer. C'est-à-dire de points fixes.
Mais d'ailleurs, on peut se demander quelles sont les conditions, parce que quelles sont les conditions qui font qu'on habite quelque part, parce que c'est qu'habiter, quoi. Et je pense à ça pour les gens qui sont dans la rue, par exemple. Et, bon, moi qui, puisque j'ai pas mal travaillé sur les cabanes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé, mais je pense qu'en fait, ils développent toujours, si peu que ce soit, il me semble, si rude et terrible soit-il, un espace que j'appelle un espace psychique, c'est-à-dire un espace dans lequel il se quelque chose se déploie qui leur permet de développer quelques habitudes, habitudes, on sait que ça va ensemble, quelques habitudes, quelques des sas en fait qui leur permettent d'aller dans le monde extérieur et de revenir de ce monde, des sas de sécurité, des cordons en quelque sorte, mais infimes, très petits, enfin des cordons en carton parfois, rien quoi, et dont ils savent évidemment la vanité, et qui néanmoins leur permet, sans créer de communauté réelle, de se penser à l'intérieur d'une communauté rêvée quoi. C'est un peu comme ça que je les vois. Et c'est pas du tout. Tu as failli amener le livre de Clerc, des naufragés. C'est pas du tout romantique, parce que si vous lisez le livre de Clerc, c'est atroce. Quoi. La réalité des SDF, ce qu'il décrit, c'est atroce. C'est même. Moi, j'ai eu du mal à terminer ce livre tellement c'est terrible. Quoi. Et c'est des gens qui sont en perpétuelle lutte avec le monde et qui sont pas d'ailleurs des. Lui, c'est un psychiatre, un sociologue. Et il montre bien qu'ils ne répondent à aucune nosographie particulière, enfin, on ne peut pas les classer comme, je ne sais pas, c'est psychotique ou ce que vous voulez. C'est des gens qui ont ont fait ce choix, mais qui sont pris dans un monde de conflits permanents où jamais aucune paix ne peut arriver. Quoi. Il y a toujours la possibilité qu'on prenne vos chaussures quand vous êtes dans un abri collectif, il y a toujours la possibilité qu'on vous vole quelque part, autre chose, votre argent, qu'on vous tue, qu'on vous. Enfin, et du coup, je me dis toujours, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'ils habitent quoi, la ville, comment est-ce qu'ils habitent le trottoir, comment, on le voit un peu dans le film, peut-être vous avez vu ça, qui est très beau, qui s'appelle Au bord du monde. Hein, c'est un magnifique film aussi sur où il restitue à ces gens leur dignité, quoi, une sorte de, jusqu'au même à celui qui est le plus démuni, qui a rien, quoi, qui a juste une couverture sur les épaules, qu'on voit à la fin du film. On le voit à un moment donné, il rentre dans sur les quais, enfin sur les berges, comme un rat dans un trou, comme ça, pour s'abriter. Et à la fin, on le revoit sur les Champs-Élysées, je crois, et on dirait Agamemnon. Il est magnifique, quoi. Il a une stature impressionnante. Et bon, il y a cette beauté-là aussi qui est terrible, mais qui est visible dans ce film. Alors donc, il y a quelque chose, il arrive à sentir quelque chose en interrogeant tous ces gens, parce qu'il les interroge à chaque fois, ils sont tous très différents. On voit qu'ils habitent aussi par leur imaginaire quelque chose. Un imaginaire parfois extrêmement frustrant.
Habiter, tu faisais ce geste, c'est effectivement en lien avec avoir. C'est une forme fréquentative du fait d'avoir, avoir souvent. Développer des habitudes, c'est effectivement disposer d'un endroit où on peut répéter la trace d'un geste d'avoir, de posséder, où l'avoir ne va pas se dissoudre dans un monde sans limites, sans frontières. Tu parlais de la distinction entre un dedans et un dehors, hein, et de Clerc justement parle de cette pathologie du trouble et de la torture qu'est cette espèce d'écorchement consistant à ne pas avoir de dedans, à ne pas pouvoir disposer d'un abri, d'un dedans, qui vous garde du dehors ou qui le filtre au moins en partie ou au moins parfois. Mmh. Et tu parlais, de l'impossibilité de pouvoir compter de façon sur une sécurité de la possession. Tu parles dans un texte de ces malheureux qui sont même obligés de s'attacher les chaussures autour de leur cou pour qu'on ne les leur vole pas la nuit. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne peut compter durablement sur la possession. Avoir n'est pas quelque chose qui soit, dont on soit sûr que ce sera réitéré. Habiter, c'est ça. Habiter, c'est avoir un endroit où on peut disposer de ces choses, où on peut avoir. Or, la situation est telle qu'aujourd'hui, et ça, ils en parlent de Florian et Taglialini, que certains ne peuvent même plus, ou ont le sentiment de ne même plus avoir leur propre corps. Tu parles quelque part, c'est très beau, de la distinction entre un corps qu'on est et un corps qu'on a.
Oui.
Mais si on ne peut même pas avoir de corps, comment peut-on en être un, après pour 13 ans ?
Alors là, dans le texte que tu as sélectionné, c'est un très joli texte justement sur l'objectivation.
Je t'avais apporté cette petite surprise. Oui. Ben, c'est un poème qui a 100 ans. Il date de 1916 et il est tiré d'un recueil dont on n'a pas célébré le centenaire. Je trouve qu'on aurait pu. C'est le Cornet à dés de Max Jacob. Une petite merveille que je vous recommande. Voilà. Et donc, voici un poème du Cornet à dés de Max Jacob qui s'intitule « La mendiante de Naples ». Quand j'habitais Naples, il y avait à la porte de mon palais une mendiante à laquelle je jetais des pièces de monnaie avant de monter en voiture. Un jour, surpris de n'avoir jamais de remerciements, je regardais la mendiante. Or, comme je regardais, je vis que ce que j'avais pris pour une mendiante, c'était une caisse de bois peinte en vert qui contenait de la terre rouge et quelques bananes à demi pourries.
C'est très beau, c'est parce qu'on peut l'inverser aussi.
Oui, c'est tout. Oui. Effectivement, on peut l'inverser aussi. Et il y a une chose que je ne suis pas en mesure de vous faire entendre parce que ma diction française n'est pas assez pure, c'est qu'il y a, mais je vais essayer, un jour, surpris de n'avoir jamais de remerciements, je regardais la mendiante. Or, comme je regardais, je vis. Je regardais la mendiante. Les deux fois, c'est un imparfait. Un jour, je regardais la mendiante. C'est un imparfait. C'est donc, un jour, ça n'est pas le simple coup d'œil en passant. Ça n'est pas le regard fugace, justement, du point de l'œil qui donnait sa consistance et son existence à cette mendiance. Un jour, le regard s'attarde et prend une durée, une épaisseur de durée. Un jour, il la regardait, un imparfait. Et comme il la regardait, alors il vit. Alors tout d'un coup, décollant de la mendiante, le réel qui aura toujours été là, le réel fait irruption. Et cette durée d'un regard qui tout d'un coup s'attarde et se laisse, et prend le temps de se laisser surprendre et percer par le réel, c'est le regard, et c'est ce développement temporel du regard qui est impliqué au fondement, à la racine du regard théâtral. Il y a plusieurs verbes en grec ancien pour dire le regard, et le verbe qui a donné son nom, enfin la racine qui a donné son nom au théâtre, théatron, c'est une racine qui dit, le verbe théaomai dit, il dit la contemplation. C'est le verbe dont Platon se sert pour parler de la contemplation. La théorie a la même racine, c'est qui a donné théorie, c'est cet acte de contempler, hein, et la théa, c'est la contemplation, c'est-à-dire un regard qui ne scrute et n'interroge pas, qui n'enquête pas, ça c'est skeptomai, c'est le regard de la skepsis, de l'enquête, c'est un rapport un peu inquisiteur, si vous voulez. Ça n'est pas non plus le regard qui se pose simplement sur un objet pour l'inspecter, le regard eidétique en quelque sorte, qui déjà interroge les sens. C'est un regard qui est disponible, presque rêveur, vacant, mais en tout cas ouvert. Et c'est tout ça que je lis personnellement dans cet imparfait-là, où tout d'un coup dans la rue, pour peu que le regard prenne le temps, alors effectivement peut advenir un rapport authentique au, entre guillemets, au paysage. Mais comme tu l'as dit très justement, ça peut se renverser. Hein? On aurait pu penser qu'il aurait dit j'étais riche, j'étais dans mon palais et tous les jours je sortais en donnant un coup de pied à cette caisse peinte en vert avec des bananes pourries, et puis un jour je me suis rendu compte que c'était une mendiante, oui. Ce qui est en effet malheureusement le rapport plus fréquent.
Oui, c'est ça, exactement, et c'est pour ça que c'est un peu comme ça, mais c'est beau dans cette ambiguïté ou ambivalente. Il y a ce texte aussi que j'avais, je pense, à propos de... alors, c'est pas... Ça renvoie un peu à ce que tu dis à propos du regard et de la... Oui, là, c'est la contemplation, mais du paysage. Comment est-ce qu'on regarde un paysage ? C'est un texte de Bachelard que j'aime beaucoup, c'est un petit texte dans L'eau et les rêves. Il dit « On rêve avant de contempler, avant d'être un spectacle conscient, tout paysage est une expérience onirique. » On ne regarde pas avec une passion esthétique, avec une passion esthétique que les paysages qu'on a d'abord vus en rêve. Comme s'il fallait être précédé, comme si la contemplation d'un paysage devait être précédée par son rêve. Et je trouve qu'il y a quelque chose.
C'est très juste. D'ailleurs, c'est un commentaire parfait de ce poème. Ouais. Effectivement, il n'a pas d'abord vu la caisse. Ouais. Il a d'abord rêvé la mendiante. Oui, c'est très juste.
Du coup, ça s'enchaîne bien, en fait.
Ah oui, je vais à mon tour répliquer, je crois que ça ne servira de conclusion parce que le temps passe, mais quand j'ai demandé à Daria et à Antonio quel genre de texte les avait inspirés pour leur travail, ils m'ont tous les deux répondu Annie Ernaux. Et ils m'ont demandé de vous lire des textes d'Annie Ernaux. Alors, j'en ai plusieurs. Je vais peut-être vous en lire deux. Voici le premier. Les deux sont extraits de La vie extérieure. Silence absolu, là où je me trouve en ce moment, ma maison, point dans l'espace indéterminé de la ville nouvelle. Expérience, parcourir par la mémoire le territoire qui m'entoure, décrire et délimiter ainsi l'étendue de l'espace réel et imaginaire qui est le mien dans cette ville. Je descends jusqu'à l'Oise, voici la maison de Gérard Philippe, la traverse, survole la base de loisirs de Neuville, revient sur Port-Cergy, file vers l'Essec, les quartiers des Touleuses et des Maradas, passe le pont des Ragniers, je suis dans le complexe Art de Vivre, revenant par l'autoroute A15, bifurquant à travers champs pour atteindre Saint-Ouen-l'Aumône, le cinéma Utopia et l'abbaye de Maubuisson, je survole Pontoise en tous sens, pousse jusqu'à Auvers-sur-Oise, monte la côte de l'église vers le cimetière, la tombe de Van Gogh sous le lierre. Je reviens par la même route le long de l'Oise, brève incursion à Ony, j'entame les grandes avenues menant au sens de Cergy-Préfecture, les Trois Fontaines, la Tour Bleue, le Théâtre, le Conservatoire et la Bibliothèque. Je suis la ligne du RER et la chaussée de pylônes jusqu'à Cergy-Saint-Christophe, la grande horloge de la gare. Je me promène dans la rue qui conduit à la Tour Belvédère et aux colonnes de l'Esplanade de la Paix, d'où se dévoile un immense horizon avec en fond les ombres de la Défense et de la Tour Eiffel. Pour la première fois, j'ai pris possession de l'espace que je parcours pourtant depuis 20 ans. C'est remarquable. On a le sentiment qu'en effet, elle retrouve une expérience qui est de l'ordre de l'aborigène, de l'aborigène australien. Effectivement, enfin, elle s'approprie, et elle s'approprie par les noms. C'est extraordinaire. Tout d'un coup, ces noms qui parfois ont été fabriqués par des publicitaires, réappropriés par le sujet rêvant, deviennent des noms d'un poème possible. Et cet autre texte, du même livre, dans la ville nouvelle, près de la gare RER, une femme noire en jupe plissée marron clair, un chemisier beige et un chapeau rond, comme ceux des Quakers, appuyée sur la bordure de béton, surplombant les voies en contrebas, une fille en gilet anorak, malgré la chaleur, l'air vague, trois petites filles dont l'une porte un bouquet de feuillage avec leur mère. Un homme blanc, la cinquantaine, chemise à manches courtes, sac à dos, marche sportivement. Un groupe d'hommes et de femmes, jeunes, même costume, pantalon noir et chemise blanche. Une secte où les vendeurs de magasins marchent vers l'entrée du RER. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, J'ai essayé de voir tous les gens que je croisais, tous inconnus. Il me semblait que leur existence, par l'observation détaillée de leur personne, me devenait subitement très proche, comme si je les touchais. Si je poursuivais une telle expérience, ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait radicalement changée. Peut-être n'aurais-je plus de moi. Et ça, ça m'a fait penser à une très belle expression que tu as eue dans le livre qui circule, dans le paysage, parmi vous, de l'artiste contemporain qui désormais ne s'en tient plus effectivement au cadre perspectif, mais qui est sorti par la fenêtre. Qui est sorti par la fenêtre pour rejoindre le paysage et tous ceux qui le peuplent. Et ça, ça me paraît parfaitement décrire le geste de, entre autres, de ces artistes que sont Daria Dorian et André de Tavallé. Ben, j'espère que tu vas venir découvrir le spectacle bientôt.
Oui, j'espère aussi.
Gilles, je te remercie.